Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez Radio Campus et C'est quoi de neuf doc, l'émission des jeunes chercheurs de Clermont-Ferrand. Et je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2019 pour mes collègues doctorantes, doctorants, une année remplie de données collectées, d'articles ou contributions d'ouvrages publiés, de soutenances réussies. Et puis bon, pour celles et ceux qui ne sont pas dans la recherche, eh bien, je vous souhaite quand même aussi plein de belles choses, évidemment. Alors autour de moi, l'équipe habituelle. Alors, nouvelle année, nouveau format, j'ai décidé que 2019 serait l'année du changement. On chamboule tout, on innove, puisque désormais je donne la parole aussi aux chroniqueurs, même pendant l'introduction. Alors ce soir, vous retrouverez Arnaud Personne, bonsoir et bonne année.
Tu vas bien ? Bonsoir et bonne année.
Merci. Alors tu nous parleras de quoi ce soir ?
Ce soir, je vais vous parler de dynamique de population. Et de gestion de la pêche, par exemple, durable.
Voilà. D'accord, donc ça va, ça ne sera pas trop vertigineux alors, la pêche, ça ne donne pas trop de vertige mathématique.
Voilà.
On verra,
gestion durable
on verra
de l'environnement, bien. On va dire. Plus, c'est bon.
Ok, ensuite nous avons donc Jules Barthélémy, doctorant en droit public. Bonsoir Jules, excellente année 2019 à toi.
Bonne année.
Et dans ta chronique Europolis, donc, tu abordes chaque mois le système politique d'un pays européen. Quel pays aborderas-tu ce soir ?
On va essayer un peu d'aller se réchauffer en Espagne.
Ah, très bonne idée. Espagne, effectivement, peut-être un petit peu plus chaud qu'actuellement, où il neige dehors apparemment. Et ensuite, donc, nous passerons aux 8 minutes avec. On pourrait presque l'appeler maintenant 15 minutes avec. Hein. Et alors, l'invité ce soir, une docteure, Ludivine Paris. Bonsoir Ludivine.
Bonsoir.
Et belle année 2019.
À toi aussi.
Et ensuite, en dernier lieu, donc, on retrouvera pour la dernière fois Marine Dor, docteure en biologie, toujours présente pour nous faire l'agendoc en fin d'émission. Bonsoir Marine.
Bonsoir.
Et belle année 2019 à toi aussi. J'espère que tu nous as préparé un bel agenda pour bien commencer cette année. Et enfin, à la technique, notre président, Quentin Rodriguez. Bonsoir, Quentin.
Bonsoir, Olivier.
Et belle année à toi aussi.
Merci.
Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2019 ? Oui, toi, tu as une question un peu spéciale.
Oh là, je sens le piège venir.
Non, pas du tout.
Eh bien, alors, une thèse, c'est peut-être un peu tôt.
Est-ce que ton micro fonctionne ou pas ? Ou est-ce que tu peux ?
Léger problème technique. Une thèse, c'est peut-être un peu tôt, malheureusement, je ne sais pas, d'arriver à m'en sortir avec tout ça.
Avec tous tes différents projets en dehors de la thèse et de
voilà,
ta thèse, effectivement.
Verre,
alors, bon, j'espère que vous êtes bien installés, vous, auditrices, auditeurs, bien au chaud, et nous commençons dès à présent avec la chronique Vertige mathématique d'Arnaud.
Vertige mathématique.
Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Qui dit fête de fin d'année dit réveillon, gueuleton, avec souvent des produits originaux. Alors, je ne sais pas ce que vous avez mangé, mais si vous êtes soucieux de consommer responsable, vous avez peut-être acheté du saumon issu de la pêche durable ou du gibier même provenant d'une association de chasse près de chez vous. Alors, on peut se demander que veut dire durable et qu'entendons-nous par là ? Je vais y arriver, c'est difficile aujourd'hui. Est-ce qu'en prélevant finalement des animaux ou même des plantes, je pense aussi à certaines espèces comme la gentiane qui est aujourd'hui protégée, on n'impacte pas négativement les populations de ces espèces-là ? Alors en vous renseignant un peu, vous verrez qu'en France, il y a des organismes scientifiques, par exemple l'Institut océanographique ou l'ONCFS, l'Office national de la chasse et la faune sauvage, qui chaque année sont chargés de définir des quotas de prélèvement pour chaque espèce. Mais alors, comment ces scientifiques font pour savoir quel sera l'impact d'un certain prélèvement sur une population donnée ? Puis-je prédire l'évolution, c'est-à-dire la dynamique d'une population dans un certain environnement ? Voilà des questions qui se situent à la confluence entre biologie, et plus particulièrement écologie, et les mathématiques. En effet, qui dit prédiction dit modèle, et donc équation. Je vous propose de mettre en avant l'aspect mathématique de cette question. Pour cela, on va devoir remonter dans le temps, et plus précisément au 19e siècle. Alors, au 19e siècle, un des premiers scientifiques à s'intéresser à ce sujet est Malthus. Il met en place des équations capables de prédire l'évolution d'une espèce dans un cadre particulier. C'est-à-dire que cette espèce n'a pas de prédateur et évolue dans un milieu où les ressources sont limitées. Il faut par exemple penser à des moutons dans un élevage ou aux sangliers qui aujourd'hui n'ont plus de prédateurs naturels dans certaines régions de France. Je pensais aux loups. Les résultats qu'obtient Malthus, sont sans surprise. Dans un premier temps, si les ressources sont abondantes, la population croît de façon exponentielle. Puis le nombre d'individus augmentant plus vite que les ressources, ces dernières se font de plus en plus rares et une partie meurt de faim. Enfin, le nombre d'individus finit par se stabiliser autour d'une valeur moyenne. Un exemple illustrant ce phénomène a pu être constaté en 1944. 29 rennes ont été introduits sur l'île de Saint-Mathieu, je pense, si la prononciation est bonne, en mer de Bering. En l'absence de prédateurs et en présence de ressources alimentaires abondantes, la population a explosé, atteignant 60 000 individus en 20 ans. Mais en 1963, c'est-à-dire 6 mois après ce résultat-là, toute la population, sauf 42 rennes, sont morts de faim. Et la végétation a été gravement et durablement dégradée. On parle alors de catastrophe malthusienne, la chute brutale de la croissance de la population à cause du manque de ressources. Ces équations permettent aussi à Malthus de savoir au bout de combien de temps une telle catastrophe peut se produire. Et comme l'homme n'a pas de prédateur, il applique alors son modèle à la population humaine sur la planète Terre. Il déduit qu'une catastrophe démographique prochaine est inévitable, à moins d'empêcher la population de croître. C'est-à-dire que ceux qui tiennent les rênes du gouvernement adoptent une politique de contrôle de naissance dite politique malthusienne. Il publie alors « Essay on the Principle of Population » en 1926, qui fait grande clameur à l'époque. Même si la révolution agricole nous a donné un peu de répit, la question de la démographie humaine est encore un problème préoccupant de nos jours. Bref, revenons-en à nos moutons. Dans le cas où il n'y a pas de prédateur, la dynamique de la population peut être représentée par un modèle de Malthus. Mais que se passe-t-il lorsque l'espèce considérée a des prédateurs naturels? Et là, les choses se compliquent. En effet, il y a des interactions entre la proie et le prédateur. Prenons l'exemple de sardines et de requins. Les sardines, elles, se contentent de manger. C'est bien connu. Les sardines, quand ça dînait, sardines. Bref, il fallait la faire.
Oh là là.
Et donc, elles se multiplient. Le seul frein, outre la quantité de nourriture, est la présence de prédateurs. Mais plus le nombre de sardines augmente, plus le nombre de prédateurs augmente. Et plus ils mangent de sardines. Donc plus le nombre de sardines diminue. Et si le nombre de sardines diminue, alors le nombre de prédateurs diminue. Et ainsi de suite. C'est assez complexe. Il a fallu attendre 1926 pour que Alfred James Lotka et Vito Volterra construisent un système d'équations différentielles, dites de Lotka-Volterra, capable de décrire la dynamique de systèmes biologiques dans lesquels un prédateur et sa proie interagissent. Ces équations ont connu un franc succès dans les années 50 notamment, suite à l'histoire suivante. Avant la Seconde Guerre mondiale, la pêche des sardines en mer Adriatique s'effectuait de la manière intensive, avec un rendement à peu près régulier. Pendant la guerre, la pêche a été interrompue durant 5 ans. Puis la pêche a repris. Et à votre avis, que s'est-il passé? Donc la pêche a été interrompue pendant 5 ans. Que s'est-il passé ensuite?
Surpopulation.
Eh ben non, justement c'est l'inverse. Il n'y avait presque plus de sardines dans la mer. Alors les gens se sont demandé pourquoi. En fait, tout simplement, les sardines, durant ces 5 ans, ont commencé à exploser. Ensuite, les prédateurs ont suivi, donc sont devenus presque aussi nombreux que les sardines. Et donc, ils ont mangé presque toutes les sardines et on s'est retrouvé avec beaucoup de requins et très peu de sardines. Voilà. Donc, en fait, les pêcheurs ont été largement surpris par ce résultat-là. Mais les écologues, eux, s'y attendaient car ce phénomène était prédictible à partir des équations de Lotka-Volterra. Depuis, à de nombreuses reprises, ces équations ont prouvé leur efficacité. Alors aujourd'hui, bien sûr, des modèles mathématiques plus complexes permettent même de décrire l'évolution d'un écosystème tout entier. On est alors capable, avec plus ou moins de certitude, de savoir quelle quantité de poissons ou d'animaux on peut s'autoriser à prélever, de sorte à ce que les populations ne soient pas impactées. Même si parfois les intérêts financiers semblent emporter sur les conseils des scientifiques, un tel mode de gestion est nécessaire pour préserver la biodiversité et ne pas dégrader les ressources de notre planète. Ainsi, maintenant, quand vous achèterez des produits issus de la pêche durable ou des associations de chasseurs, vous penserez que derrière ces modes de gestion se cachent des modèles et des équations mathématiques.
Et vous venez d'entendre Making Plans for Nigel, interprété ici par le groupe Nouvelle Vague. Ces chroniques sont toujours très bien planifiées, et moi je fais toujours très bien des transitions. Je parle bien sûr de Jules Barthélémy qui, dans sa chronique Europolis, aborde ce soir donc l'Espagne. Jules, c'est à toi.
L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Europolis.
Bonsoir tout le monde, on se caille un peu en ce moment, alors partons poursuivre notre tour d'Europe en Espagne pour nous réchauffer un peu. En effet, ça chauffe pas mal en Espagne. Commençons par le début. L'Espagne est une monarchie, avec un roi à sa tête, Felipe VI en ce moment. Mais ce roi n'a pas vraiment de pouvoir car le royaume d'Espagne est une monarchie parlementaire avec comme personnage central le président du gouvernement qui est désigné par les Cortes, les députés espagnols. La constitution espagnole fut adoptée par référendum le 6 décembre 1978 à une écrasante majorité après un processus de rédaction par une assemblée constituante élue le 15 juin 1977 à la suite d'une transition démocratique facilitée amplement par le roi Juan Carlos Ier qui y sauva au passage sa couronne. Cette constitution fut conçue dans une optique consensuelle. Alors, le mois dernier, nous demandions ce que pourrait donner un consensus impliquant des forces d'extrême droite. Eh bien, dans le cadre de la constitution espagnole, nous avons un exemple, puisque les franquistes ont participé aux négociations. Alors, rapidement, les franquistes, ce sont les cadres et les soutiens de la dictature militaire, particulièrement sordide et violente de Franco. La participation de réactionnaires donc à la rédaction d'une constitution se ressent dans le texte d'une norme suprême qui pose aujourd'hui de nombreux problèmes. Oui, je le disais au début, ça chauffe en Espagne. Vous avez forcément entendu parler de la crise catalane. La Catalogne est une région autonome au nord-est de l'Espagne, dont les habitants parlent une autre langue que l'espagnol, le catalan. Cette région est traversée par une question aux conséquences majeures, l'indépendance ou le maintien dans le royaume d'Espagne. Alors, les indépendantistes, avec longtemps à leur tête des conservateurs, ont longtemps administré la Catalogne en négociant plus d'autonomie avec les différents gouvernements espagnols. Seulement, voilà, cette politique des petits pas entre l'Espagne et la Catalogne semblait plutôt bien se dérouler, mais c'était sans compter Mariano. Mariano Rajoy, le président du Partido Popular, le parti conservateur espagnol. Alors, pour faire simple, ce dernier a d'abord profité d'une constitution négociée avec les franquistes, donc, pour obtenir qu'un accord sur l'enseignement du catalan entre le gouvernement espagnol et le gouvernement catalan soit déclaré inconstitutionnel, et ce fut le cas. Donc, commença alors une montée en niveau de la contestation et le début de la réelle crise catalane. Entre-temps, Mariano est devenu président du gouvernement espagnol. En 2017, donc, ensuite, la crise catalane s'est amplifiée avec un gouvernement catalan qui organise un référendum sur l'indépendance, sans base légale et surtout sans l'accord du gouvernement espagnol. Or, la réponse du gouvernement Rajoy, elle choqua par sa brutalité, une brutalité policière notamment, qui conduisit à une séquence politique incroyable entre organisation quand même du référendum, proclamation solennelle d'indépendance, fuite du président du gouvernement catalan en Belgique, puis en Allemagne, en passant par l'arrestation d'un chef de parti, la mise en place sous tutelle de la région et des élections locales qui n'ont absolument rien résolu. Cette séquence intense n'a pourtant pas empêché la chute du gouvernement Rajoy suite à la condamnation de son parti pour corruption, un scandale que la crise catalane a failli éclipser, seulement failli. Car au Parlement espagnol aussi, ça chauffe pas mal. Il faut dire que la situation est très tendue et compliquée. Pour faire simple, 4 grands partis et une sorte de miasme complexe d'élus indépendantistes. Pour commencer, le Partido Socialista Obrero Espagnol, le PSOE des socialistes, plutôt centriste ou plutôt très à gauche selon qui est à leur tête. Alors en ce moment, c'est plutôt très à gauche avec le président du gouvernement Pedro Sanchez. À la gauche encore du PSOE, on trouve le fameux Podemos, mouvement de gauche radicale qui pèse lourd au Parlement si l'on compare à ses équivalents européens. À droite, on trouve le Partido Popular de Mariano Rajoy, le PP, qui est en passe maintenant de se radicaliser depuis qu'il a à sa tête le très conservateur Pablo Casado. Au centre, enfin, il y a Ciudadanos, un parti libéral qui met son adhésion aux valeurs de l'Europe en marche, enfin en avant, je veux dire, et qui est présidé par un ancien salarié d'une grande banque du pays, Albert Rivera. Alors, ces partis ont marqué dernièrement l'histoire en provoquant une absence de gouvernement pendant près de 10 mois. Alors, sans entrer dans le détail, aucune alliance n'a suffi à former une majorité. Du coup, pour vous raconter quand même un peu, cette situation de blocage a pris fin car les socialistes avaient changé de secrétaire général. Ce dernier a demandé aux députés du Parti Socialiste de s'abstenir, ce qui a donné un résultat suffisant pour que le gouvernement de Rajoy soit validé au moment de ce vote. Mais il y a eu le scandale de corruption et l'élection au PSOE d'un autre secrétaire général encore, qui fut lui déterminé à provoquer la chute du gouvernement. Dans l'embarras de la situation, les députés conservateurs n'ont su trop quoi faire et finalement, le secrétaire général des socialistes, Pedro Sanchez, a pu obtenir la validation de son gouvernement, un gouvernement majoritairement féminin, c'est à noter. Mais ça chauffe toujours en Espagne, au Pays Basque, où la question de l'indépendance n'est pas encore réglée. Ça chauffe encore entre les républicains qui ne veulent plus d'un roi et ceux qui défendent la famille royale sur fond de scandale fiscal. Mais ça chauffe aussi et surtout parce que les scandales de corruption conduisent des électeurs conservateurs à préférer au Partido Popular un nouveau parti ouvertement masculiniste et très favorable au franquisme, Vox. Ce parti semble en voie d'obtenir des résultats inédits, surfant sur le rejet des réfugiés, la nostalgie de Franco, les scandales de corruption et surtout la question du droit des femmes. Car ça chauffe en Espagne, ça chauffe beaucoup, car les femmes se soulèvent contre un patriarcat traditionnel bien implanté qui permet le maintien d'inégalités de traitement et la justification de viols et d'agressions sexuelles. Vox se veut l'antithèse de cela et rencontre pour le moment son public. Il semble que pour conclure, il semble que la constitution espagnole présente un problème à sa base, le consensus qui impliquait des franquistes. La particularité de la transition espagnole a conduit à ce que les anciens cadres de la dictature militaire s'en tirent à plus que bon compte, une impunité qui a nourri des ressentiments qui sont aujourd'hui des abcès majeurs dans la société espagnole. Alors un petit exemple dans la constitution espagnole reflète une constitution qui est complexe, contradictoire parfois. Si vous lisez l'article 3, au premier paragraphe, vous lisez que le castillan est la langue espagnole officielle de l'État et que tous les Espagnols ont le devoir de la connaître et le droit de l'utiliser. Mais si vous descendez, vous avez un autre paragraphe qui précise que les autres langues espagnoles sont aussi officielles dans leurs communautés autonomes respectives conformément à leur statut. Un premier paragraphe extrêmement autoritaire et un second beaucoup plus, qui a été adopté plus tard, beaucoup plus ouvert. Bref, la Constitution, elle reflète les contradictions d'une société qui n'a pas traité ses vieux démons et ça chauffe en Espagne.
Alors, merci Jules pour cette chronique. Et du coup, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si tu pourras nous répondre. Mais du coup, maintenant, ça en est où la question de la Catalogne actuellement ? C'est-à-dire, il n'y a rien qui...
C'est-à-dire qu'il est question d'une éventuelle révision de la Constitution, en fait, que pour permettre ce qui a été interdit, du coup, la dernière fois par le tribunal constitutionnel espagnol. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que les oppositions n'arrivent pas à se mettre d'accord. En fait, il y a une majorité qui n'est pas une majorité, qui n'a pas la majorité au Parlement. Donc, si elle n'est pas d'accord d'autres partis, elle ne peut rien obtenir. C'est une situation très tendue, sachant qu'il va bientôt y avoir des élections. Donc, les partis ne sont pas forcément très ouverts à des... consensus pour le moment. Mmh. Donc c'est pour le moment c'est ça la situation pourrie.
D'accord.
Moi j'avais une question de fond. Mariano comment?
Rajoy.
Ah.
Rajoy. Mariano Rajoy.
Et oui donc c'est... Quentin Rodriguez donc,
et Mariano Rajoy.
Et la légalité.
Mais j'étais toujours mort de rire en entendant les journalistes français essayer de prononcer son nom. Je suis très déçu depuis qu'il est plus premier ministre.
Quel Sanchez, c'est plus simple.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón.
Et vous venez d'entendre le formidable Malavida de la Mano Negra, Muchas gracias, Jules, Roule, Rulio. Voilà,
je ne sais même pas comment on dit de rien en espagnol, c'est pour dire.
De nada, je ne sais pas. voilà, une musique qui fait bien bouger, et bien bouger, on en a besoin, et c'est pour ça qu'il y a des chercheurs et des chercheuses qui travaillent là-dessus, et notamment Ludivine Paris, les transitions sont toujours parfaites, qui est notre invitée ce soir pour le 8 minutes avec.
Huit minutes avec.
Ludivine, bonsoir.
Bonsoir.
Rebonsoir. Donc, tu es docteur en activité physique adaptée et santé. Et alors, avant de passer au fond du sujet, c'est-à-dire donc, la thèse que tu as soutenue il y a quelques temps, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ?
Alors, mon parcours est un peu... il est assez...
chaotique.
Voilà, chaotique. C'est-à-dire, j'étais partie après un bac tout simplement sur un UT parce que, on m'avait souvent dit à la fac, faut vraiment être dans les études, faut travailler par soi-même, faut être motivé, ce que je n'étais absolument pas. Donc j'ai préféré être dans un cadre un peu plus cadré. Donc je suis partie sur l'UT et après, donc, j'ai continué quand même licence, master... j'ai fait une première année de master activité physique, en STAPS, donc activité physique et sportif, pendant un an. Et après, j'ai décidé de compléter en fait, cette première année, de ne pas faire la deuxième, mais reprendre un master nutrition et sciences des aliments, dans lequel il y avait aussi un parcours activité physique. Comme ça, je complétais mon parcours activité physique et je complétais avec des notions de nutrition et santé. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur Clermont. Que j'ai eu un premier poste à l'INRA et à la suite de ce poste à l'INRA, on m'a proposé donc ma thèse que j'ai effectuée.
C'était quoi, un poste d'ingénieur ?
Un poste d'ingénieur d'études.
D'accord. Et donc ta thèse qui s'intitule « Études de l'intérêt des outils numériques pour évaluer et promouvoir l'activité physique chez les patients atteints de maladies chroniques ». Alors c'est bien parce que pour une fois je comprends quasiment tous les mots. Tout d'abord on va commencer par la fin. Qu'est-ce qu'on entend par maladie chronique ?
Alors les maladies chroniques, en théorie on appelle ça les maladies chroniques non transmissibles par rapport aux maladies infectieuses. Et donc les maladies chroniques c'est ce qu'on peut appeler couramment en France des affections de longue durée. Donc ça va être diabète de type 1, diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les cancers, il y a aussi les maladies rhumatismales, des maladies respiratoires, donc c'est assez large. Je ne sais pas combien de maladies sont répertoriées dans les maladies chroniques, mais en tout cas en France on a un répertoire appelé affections de longue durée dans lequel sont répertoriées 30 grandes affections de longue durée.
D'accord, et donc à quoi sont dues globalement ces maladies ?
Principalement, il y a des facteurs de risque environnementaux, génétiques, mais moi je me suis plus concentrée sur la partie et ça joue énormément sur les facteurs de risque comportementaux. Et donc comportementaux, ça va être en lien avec nos modes de vie actuels principalement. Donc il va y avoir en premier tout ce qui est inactivité physique et sédentarité. En deuxième, on retrouve tout ce qui est alimentation déséquilibrée. En troisième, le tabac. Et enfin, en quatrième, la consommation d'alcool excessive.
D'accord. Et donc, toi, tu te concentres plus spécifiquement donc, sur l'activité physique,
voilà.
C'est ça ? Et donc, qu'est-ce que tu entends par activité physique ? Est-ce que si, par exemple, moi, je fais mon trajet de 10 minutes à pied pour aller au boulot, c'est suffisant ? Ou est-ce que c'est plus complexe que ça ?
Alors, c'est l'activité physique, souvent, elle est confondue avec le sport. Et l'activité physique, à proprement parler, c'est la définition, c'est tout mouvement corporel produit par la contraction d'un muscle squelettique entraînant une dépense énergétique au-delà de la dépense énergétique de repos. Donc en théorie, selon la définition, à partir du moment où on bouge un bras, on bouge une jambe, c'est de l'activité physique. Après, il y a pour la partie recommandation en termes d'effets santé, on a une recommandation qui est de... Voilà, 30 minutes par jour, tout est relatif, hein, parce que c'est pas non plus... normalement, c'est 30 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée, 5 fois par semaine, sans excéder 2 jours sans activité physique. Donc voilà, ça c'est pour la grosse recommandation, mais pour faire simple, on reste sur 30 minutes par jour. Et donc, effectivement, souvent, on dit ouais, 30 minutes par jour, j'ai pas le temps. Mais il faut savoir que ces 30 minutes par jour peuvent être fractionnées en période de 10 minutes. Donc, effectivement, ta petite marche de 10 minutes, tant que tu fais une marche à un pas modéré, hein, pas un petit pas lent où tu regardes les oiseaux, les vitrines et compagnie, tant que tu marches à un bon pas, une allure, ce qu'on appelle normale, c'est de l'activité physique qui va être considérée comme bénéfique pour la santé.
D'accord. Donc ça, c'est la recommandation minimale, on va dire.
Voilà. Et 30 minutes par jour, en gros. Et en général, on dit 10 000 pas, mais bon. Voilà. Essayer de viser 10 000 pas, c'est très bien. Mais bon, selon les derniers papiers, c'est un peu plus large. Ils sont pour la population générale, entre 7 000 et 11 000.
Donc, d'accord. Voilà. Je vais commencer à compter mes pas par jour. Et donc, tu parles d'outils numériques donc, dans ton sujet de thèse et plus précisément donc, ce qu'on appelle les TIC. C'est comme ça qu'on dit, TIC, voilà. Optique, je ne sais pas, TIC. Donc, technologie de l'information et de la communication. Alors, pourquoi s'intéresser au TIC comme outil de promotion ? Est-ce que les outils plus traditionnels, alors je ne sais pas quels sont ces outils plus traditionnels, ne sont pas suffisants ?
En fait, c'est surtout venu du fait que on se posait la question de comment sensibiliser les patients pour qui l'activité physique est essentielle, comment les sensibiliser à cette importance et l'effet bénéfique de l'activité physique au quotidien. Et donc, étant donné que cette activité est bénéfique, il y a des programmes qui ont été développés, donc ce qu'on appelle les programmes de réhabilitation ou de réentraînement. En général, c'est sur 3 mois ou 4 mois. Donc ces programmes, c'est tout simplement du réentraînement. Donc on fait une partie aérobie, une partie renforcement musculaire, souplesse, coordination. Et ces programmes sont très efficaces pour le patient, tout simplement donc, pour sa santé, pour sa qualité de vie. Non seulement ça réduit aussi les risques de morbidité, etc. Et aussi d'aggravation de la santé. Donc tout ça, ça a été très bénéfique. Le problème, c'est qu'au-delà de ce programme, souvent les patients... Bah, tout simplement arrête l'activité physique, arrête les exercices d'endurance, de renforcement, etc. Et donc la question, c'est comment nous, après un programme de réentraînement, comment on peut les aider à rester actifs et garder ce niveau d'activité physique suffisant qu'ils ont pu acquérir pendant le programme. Donc en fait, il y a eu certainement des études avec des podomètres simples à essayer de sensibiliser les patients sur leur propre comportement. Mais ça n'a jamais été vraiment percutant, on va dire, en termes de résultats. Et donc, la question qui est venue, c'est au vu de l'arrivée massive de tout ce qui est nouvelles technologies en ce moment, donc c'est sites web, smartphones, et plus récemment, tout ce qui est objets connectés. Donc, on va avoir les podomètres connectés. Pour les patients, on peut retrouver des glucomètres connectés, des oxymètres connectés. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des outils qui sont devenus maintenant des outils un peu du quotidien? Maintenant, quasiment tout le monde a son smartphone avec soi tous les jours, ou quasiment tout le monde se connecte quand même à Internet. Donc, c'est vraiment des objets qui sont ancrés dans la vie quotidienne des patients. Et c'est d'utiliser un support qu'ils connaissent déjà pour leur apporter une information qui va être intéressante tous les jours. Donc, en fait, l'idée, elle est partie de là et on s'est posé la question, est-ce qu'utiliser ces supports peuvent être un moyen pertinent pour les accompagner après un réentraînement et les amener à garder cette activité physique? Voilà.
D'accord. Et donc, pour répondre à cette question, quelle méthodologie est-ce que tu as utilisée donc, pour étudier cet apport éventuel des TIC?
Alors d'abord, on avait 3 questions dans ma thèse. Je vais commencer la dernière, puisque finalement, la dernière, c'est celle qui m'a donné ma bourse de thèse. Donc c'était d'étudier l'efficacité d'un programme complet, d'un dispositif complet, où il y avait un site internet, une application smartphone et 2 outils connectés, un podomètre et une balance connectée. L'objectif, c'était d'étudier l'efficacité de ce dispositif chez des patients atteints de maladies chroniques pour réentraîner ces patients et les amener à atteindre les recommandations en activité physique. Donc ça, c'était la dernière partie la plus complète d'études sur mes patients, qui comprenait tous les patients atteints de maladies chroniques avec tout le dispositif. Et c'était une étude donc multicentrique et sur 1 an. Donc c'était la plus complète. Et on s'est posé la question à travers ça, en réfléchissant aux potentiels résultats qu'on pourrait avoir. Bon, si ça marche, très bien. Si ça ne marche pas, d'où pourrait venir le fait que ça ne fonctionne pas. Donc on s'est posé la question, est-ce que tout simplement l'outil qu'on utilise est pertinent pour la population qu'on vise ? Parce que les maladies chroniques, en général, se déclarent au-delà de 45 ans. C'est des maladies, au début, qui sont silencieuses. On commence déjà à être malade, mais on ne le sait pas, il n'y a pas beaucoup de symptômes pour le diagnostiquer en amont. Et en général, au-delà de 45 ans, ça se déclare. Donc la population qu'on vise, c'est entre guillemets 45-79 ans.
Et est-ce que, alors je me permets de t'interrompre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une catégorie sociale qui est plus touchée en termes de richesse, de pauvreté, de population aussi ?
Il y a aussi ça qui rentre en compte. Mais c'est assez délicat parce que par rapport à l'activité physique, par exemple, souvent la classe de ce qu'on va être ouvrier et les catégories socio-professionnelles un peu basses, c'est des catégories qui vont avoir une activité physique au travail assez intense par rapport à ce qu'on peut trouver chez les employés ou chez les cadres. Néanmoins, cette catégorie est autant touchée que les cadres par les maladies chroniques. Ce qu'il faut regarder, c'est que aussi ces personnes-là ont souvent un revenu plus faible, ont des moyens plus faibles, et de ce fait, le coût de la vie, c'est plus compliqué, et souvent s'orientent vers une alimentation qui est moins équilibrée, moins variée, etc. Donc il faut en fait prendre en compte tous les facteurs de risque quand on analyse aussi les catégories socio-professionnelles. Ouais. Et je ne sais plus où j'en étais rendu.
Alors,
juste
donc
avant.
Tu parlais de la population qui est majoritairement une population âgée, qui est touchée par les maladies.
C'est une population. Donc la question, forcément, nous, on est jeunes, on a tous un smartphone, on utilise tous Internet. Pour nous, c'est évident d'utiliser, et on le sait très bien, et on arrive sur un site Internet, on sait se débrouiller. Par contre, pour les personnes au-delà d'un certain âge, je ne préciserai pas lequel, c'est un petit peu plus compliqué. Donc la question s'est posée, c'est que nos patients, est-ce que tout simplement, ils vont pas adhérer au système et ils vont pas devenir actifs parce que tout simplement le système ne leur correspond pas. Donc ça a été l'objectif de ma première étude dans la thèse. C'était tout simplement de poser, donc à travers des questionnaires, de s'intéresser aux connaissances, aux usages et surtout à l'intérêt des patients pour les nouvelles technologies dans le cadre de la santé ou de l'activité physique. Tout simplement pour voir s'ils étaient prêts à accepter les nouvelles technologies ou non, et puis si de base ils les utilisent ou pas du tout. Parce que ça peut finalement jouer sur le résultat de l'étude finale.
D'accord. Et donc du coup, sur ces deux études, quels ont été les principaux résultats alors, puisque tu as terminé ?
Alors, sur la première étude, globalement, les patients sont plutôt bien équipés. Ils ont quasiment tous accès à Internet, quasiment tous un smartphone. J'ai même rencontré des personnes de 75 ans qui connaissent très bien les smartphones, qui utilisent Snapchat et compagnie. Donc j'ai été la première surprise. Mais donc c'est une population qui est quand même bien équipée et qui utilise ces outils. Ils les utilisent pas mal pour obtenir des informations donc relatives à la santé. Par contre, quand on leur demande « est-ce que vous êtes prêt à utiliser ces outils dans le cadre de votre parcours de soins ou pour l'activité physique ?» Là, ça descend un petit peu. On est en gros à 50-50. La moitié des patients sont prêts à les utiliser et l'autre sont un peu réticents. Il y a certaines peurs par rapport à la sécurité des données. Ouais. Souvent, ils ont besoin d'un contact humain aussi. Et pour les personnes qui ont plutôt tendance à dire « oui, nous, on est plus favorables », souvent, c'est les plus jeunes. Et aussi souvent, c'est les personnes qui utilisent déjà les smartphones et notamment, par exemple, tout ce qui est application, surtout pour l'activité physique, vu que maintenant, le marché des applications en activité physique et santé a explosé. En général, ça favorise l'avis favorable des patients. Mmh. Et sur la dernière étude... le résultat est normalement confidentiel, mais c'est je peux le dire de toute façon, mais c'est plutôt négatif.
Ah, d'accord.
C'est plutôt négatif, mais moi quand j'ai rédigé ma thèse avec les premiers résultats, toutes les analyses n'avaient pas été faites. Ils voulaient faire encore d'autres analyses en essayant de combiner tous les facteurs qu'on pouvait prendre en compte pour étudier le résultat. Mais ça reste cohérent à peu près avec ce que j'ai vu au cours de ma thèse, ce que j'en ai entendu des patients, c'est que pour l'instant, ces patients-là ne sont pas, favorables à être suivis par les nouvelles technologies au quotidien pour leur santé ou pour l'activité physique. Donc de ce fait, forcément, on leur propose un dispositif, bah, ils vont pas plus le suivre, ils vont pas plus le suivre que ça. Par contre, je pense que mon étude, on la refait dans 10 ans. Bah, les personnes qui auront 55 ans dans 10 ans, c'est des personnes qui avaient 45 ans ou les personnes, etc. Enfin, avec l'évolution de, des générations, je pense que dans 10 ans, cette étude, on la refait, ça match.
Mmh. D'accord, très bien. Eh bien, merci, on arrive au terme de cette interview, Ludivine. Merci, et puis donc je te souhaite bon voyage, puisque apparemment tu as trouvé un poste à l'étranger.
Ouais, ouais, je vais aller non pas me réchauffer, mais me refroidir un petit peu au Québec.
Ah oui, bah, il va falloir courir encore plus pour justement te réchauffer. Merci Ludivine.
Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rum. Aquí. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca está Jenny, llegaron los Anonaki. No le baje, el booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rum.
Touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje.
Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rum.
My body already know how to play. The work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. I'm dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. You're so fiesta. Blow out your candles, have a siesta. You can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba.
Et vous venez d'entendre Taki Taki, interprété ou produit par DJ Snake, featuring Selena Gomez. Alors, est-ce que Selena Gomez va faire un concert à Clermont-Ferrand dans les jours qui suivent ? Suspense, et c'est Marine Dore qui va nous dire ça de suite dans son agendoc.
L'agenda du doctorant, c'est l'agendoc.
Bonsoir à tous. Donc, pour bien démarrer cette année, quoi de mieux qu'une bonne dose de rire avec la pièce Les Vilaines ? C'est une rencontre improbable, une soirée ingérable et deux femmes incasables qui vous attendent à partir de ce soir et jusqu'à dimanche au café-théâtre Défense de Rire. Pour rester dans le spectacle, mais cette fois-ci de danse, c'est la Comédie de Clermont qui vous invite du 9 au 11 à la Maison de la Culture pour le grand final, chorégraphié par Ofech Schechter. Désolé si j'accroche son nom. Et tout aussi spectaculaire, à la fin du mois, vous pourrez découvrir les étoiles du cirque de Pékin au Zénith Cournon, Auvergne. Si vous n'avez toujours pas vu Clermont sous un autre angle, vous avez jusqu'à dimanche pour prendre de la hauteur sur la Grande Roue, place de Jaude, et avoir la tête dans les nuages pour seulement 5 euros. Et si vous voulez, aller encore plus vous rapprocher des étoiles, deux conférences vous raviront avec tout d'abord Hubert Reeves, qui revient pour la seconde fois avec Infini Science, pour vous présenter Mozart et les étoiles, à l'Opéra Théâtre le 25 janvier. Puis le docteur Nicolas Laporte vous présentera le 29 janvier l'incroyable histoire du télescope Hubble à la Maison des Associations de Chamalières. Bon, vous êtes tous au courant qu'en janvier et février, il fait quand même assez froid, mais si vous avez le courage de lâcher votre plaid, beaucoup de séances de projection auront lieu bien au chaud. Tout d'abord, si vous êtes amateur de montagne, de toute manière, le contraire est compliqué quand on est clermontois, la 13e édition du Réel Rock vous présentera 5 films d'escalade dans différents endroits du monde le 15 janvier au CGR de Clermont. Dans cette lancée, les 18 et 19 janvier aura lieu les rencontres montagne et science entre le sémaphore de Sébaza et la réserve naturelle de Chastré-Sancy. Niveau documentaire, vous pourrez également découvrir le 17 janvier à 18h et en avant-première, le documentaire « Fort comme un ours » ou « Comment l'ours nous permettrait de lutter contre les maladies chroniques humaines ». Peut-être que Ludivine serait intéressée. Cette diffusion aura lieu à l'école universitaire de management en présence du producteur Nicolas Zunino et du chercheur Étienne Lefay. Et si le Mordor n'a pas de secret pour vous, ou que vous voulez en savoir plus, le CGR de Clermont organise un marathon Seigneur des Anneaux le 19 janvier dans la SAM Premium Ice. Et bien sûr, qui dit projection et février, dit forcément le Festival international du court-métrage qui débute le 1er février. Alors venez découvrir le joli petit programme qui a été concocté pour cette 41e édition sur leur site internet. Et en parallèle, pour vous dégourbir les gambettes après votre séance ou vous désaltérer, vous retrouverez également la 10e édition de l'Electric Palace à la Maison du Peuple. Bon, puisqu'on se lance sur les soirées, on en est où pour les prochains jours ? Donc tout d'abord, les amateurs d'électro seront servis ce mois-ci avec tout d'abord la soirée énigmatique Madness le 12 janvier avec un lieu qui pour le moment reste secret. Le 19 aura lieu aussi la 4e soirée électrocoste à la coopérative de mai et le 1er février, Project Moon présentera Project Phoenix, toujours à la coopé et qui vous donne également rendez-vous le 17 janvier pour son afterwork. Et le lendemain, Hippocampus vous a concocté une soirée sous le signe du rap français avec Gizmo et Duno. Le 19 janvier, dans le cadre de la Nuit de la Lecture, la BU de Lafayette organise un escape game au cœur de Poudlard. Alors enfilez votre cape et révisez vos formules magiques, car vous devrez retrouver les reliques de la mort. Et si toutefois vous ne participez pas à cette chasse aux reliques, vous pourrez vous rattraper en dégustant une bière au beurre ou vous transformer à l'aide du polynectar pour la soirée spéciale Harry Potter le 2 février au Vitamine Zénith Cournon. Et si toutefois vous préférez les boissons de Moldu, le salon Vinidome fera ressortir votre côté œnologue à la Grande Halle d'Auvergne du 1er au 4 février. Bon, tout ça, avec tout ça, moi, ça m'a donné soif. Donc, toute l'équipe vous retrouve dès à présent au Gavroche pour le rendez-vous mensuel du Doctovert, où vous pourrez découvrir le nouveau bureau de Doctoverne. Donc, à tout de suite. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm rapping. You are now watching the legend, so sit back and let the show begin. The pro is in, know it's in, but go and get me loaded in. And no offense, but suckers ain't got close to no chance. I'm gonna win, my flow is so much doper than an opiate. Oh my lord, here we go again, it's going on.
on and on, though. You can catch me up in that jungle, I'll be going ape like Congo. Hit them points like Pronto, wanna hit them up with that gun blow, that triple double Lonzo, combo. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm repping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm repping. That was my time, dog. I'm on my way to become an icon. Jumping to get your climb on, get to the level that I'm on. I am the greatest of all time, man, and I won't stop until the whole world's up in my hand. I can't see my rise up on the horizon. I've been out here grinding, trying to leave a legacy, and ain't nobody next to me, cause I'm a different pedigree. Ain't no one impressing me, so step to me, cause I got all my weaponry. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm repping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm repping.
Et vous venez d'entendre Legend, interprété par Jaroslav Beck, featuring Backchat. Alors, l'agenda, concocté par Marie, était très complet, mais il manquait deux, trois petits trucs. Alors, le vendredi 25 janvier, il y aura donc la cérémonie des écharpes des nouveaux docteurs à la rotonde organisée donc par l'UCA. Voilà, donc je ne sais pas quelle heure c'est, mais je pense qu'on trouve toutes les infos sur le site.
Je crois que c'est à partir de 18h.
Voilà. C'est à partir de 18h.
Et tous les docteurs qui sont conviés ont normalement reçu une invitation.
Voilà, donc c'est normalement...
Et Doctoverne aussi.
Ah, et aussi co-organisé avec participation de Doctoverne dans l'animation.
Et avec,
de la
je crois, une superbe animation de deux membres du bureau de Doctoverne. A priori,
c'est une tuerie. Pas les noms. Très bien. Et donc, je me permets aussi d'ajouter donc, un événement qui me tient aussi un peu à cœur, donc, qui est ce dimanche à partir de 10h. Donc, il y a le 4e anniversaire de la DOOM, qui est la monnaie locale du Puy-de-Dôme. C'est à la Maison du Peuple et il y aura un marché de producteurs locaux, que ce soit artisans, bijoutiers, microbrasseries, etc. Puis à 17h, une pièce de théâtre intitulée « There is no alternative » par la compagnie Cassandre. Voilà, nous arrivons donc au terme de l'émission. Merci aux chroniqueurs, aux chroniqueuses, à l'invité. Merci à toi, Ludivine. Donc, merci à Quentin pour la technique. Et si vous voulez réécouter l'émission ou que ça vous a donné envie d'écouter les émissions des saisons précédentes, vous pouvez le faire en podcast disponible sur le site internet de Radio Campus ou sur le site de l'association Doctoverne, www.doctoverne.fr, site sur lequel vous pourrez retrouver aussi tous les autres projets qui sont organisés par l'association. Pour ma part, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2019, que celle-ci débute sous les meilleurs auspices, et je vous donne rendez-vous le 13 février, 19h, pour le nouvel épisode de Quoi de Neuf Doc.
Vous venez d'écouter Quoi de Neuf Doc, l'émission de Doctoverne.